These episodes feature contemporary artists presenting their latest exhibitions and projects. This podcast is brought to you by the Perrotin Gallery, based in Paris, New York, Hong Kong, Seoul, Tokyo, and Shanghai. Dans ces épisodes, des artistes contemporains présentent leurs derniers projets et expositions. Ce podcast est produit par la Galerie Perrotin, basée à Paris, New York, Hong Kong, Séoul, Tokyo et Shanghai.
Je voulais remercier tout d'abord nos deux conférenciers, Marc-Olivier Valère et Jean-Hubert Martin. C'est très très gentil à vous de vraiment participer à cette série de conférences qu'on prépare pour introduire le travail de nos artistes au mieux. Je voulais remercier la Galerie Valentin qui a accepté la collaboration pour travailler avec Laurent Grasso, qui est évidemment un geste de confiance. Et je dois te remercier, Laurent, pour une expo extraordinaire, parce que vraiment, quand on se lance à faire une galerie aussi grande, on espère évidemment que les artistes arrivent à tenir des espaces. Et c'était la première fois qu'on travaillait ensemble, et je dois dire que tu as fait un parcours sans faute, c'était extraordinaire. Ashok, ici présent, va modérer la conférence, et je ne vous dérange pas plus, je vous remercie beaucoup d'être venu, et j'espère que voilà, ça va bien se passer. Donc, et si vous n'avez pas encore vu l'exposition, évidemment, allez à l'exposition après, vous verrez des photos dans la vidéoprojection. Voilà, je vous remercie beaucoup.
Merci. Alors, on peut inviter Laurent Grasso, Jean-Hubert Martin et Marc-Olivier Valère. Peut-être que vous pouvez les applaudir, ça fait toujours du bien, avant de commencer cette petite conversation. Alors, je tenais au milieu, je vais mettre là, les micros. Voilà. Alors, on s'est réunis juste hier pour décider de ne pas préparer cette conférence, parce que c'est une conversation. Et l'idée, lors de cette promenade autour des œuvres de Laurent, c'était de vous proposer, de le faire d'une manière plus formelle, de vous proposer la conversation que nous avons eue au cours de ce voyage. Parce que, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir l'exposition, mais prenez ce temps-là, il est précieux, après cette conversation, à la galerie au 76 rue de Turenne. Laurent invite les visiteurs, les spectateurs, à un véritable voyage au cœur de ces univers qu'il constitue, qu'il reconstitue d'une manière un peu cinématographique ou carrément cinématographique, tu nous diras. Et cela permet cet échange qu'on a eu hier. Alors l'idée, c'était de refaire cet échange et surtout de ne pas la préparer. Peut-être quand même dire un mot ou plusieurs sur l'artiste, Laurent Grasso, un peu ton parcours, pour savoir pourquoi et comment on en est arrivé là, à ce réel double, à ce soleil double, et essayer d'échanger à partir de ton parcours sur ce dispositif général auquel cette conférence, cette conversation plutôt très modeste, mais avec des éminents historiens d'art, professionnels de la culture, directeurs de musées et de centres d'art, vous avez bien voulu répondre, réagir en écho à cette exposition, à ce dispositif et à cette matérialité de l'œuvre que propose Laurent.
Ça marche, oui, bonjour. Bon, moi, je vais être assez bref parce que l'exposition a été un gros travail. Je suis très heureux, Emmanuel, de cette collaboration. Merci. J'ai eu vraiment carte blanche pour faire ce projet qui contient deux nouveaux films qui ont été produits pour l'exposition. Soleil double, c'est le titre de cette exposition. Ça pourrait être le titre un petit peu générique de mon travail. Cette idée que les choses sont autre chose que ce qu'elles ont l'air d'être. Voilà, ce qui m'intéresse dans toutes les expositions, dans les projets que j'ai pu faire, c'est en réalité créer ce flottement face à des objets dont on ne sait pas exactement quelle est la nature, en fait. Donc, on y voit des peintures, des livres anciens, des films. Tous ces objets ont un statut qui n'est pas évident. C'est un petit peu ce que j'essaye de mettre en place. C'est un questionnement face à ce qu'on est en train d'observer. Et donc, il n'y a pas de cartel, mais il y a un livret sur lequel on a beaucoup travaillé, qui a été fait avec différents auteurs, Teresa Castro, Grégory Kennett, mon atelier et avec Ashok et les deux Valences. Et donc on donne une série d'informations sur les œuvres, mais sans jamais être didactique, sans jamais donner de mode d'emploi. C'est un petit peu le parti pris de mon travail. C'est
un script, tu disais.
Oui, c'est un peu comme une voix off de l'exposition, en fait. Et donc, on peut avoir quelques infos, avoir le titre des livres anciens qui sont dans les salles, des histoires qui ont servi à créer les œuvres. Mais rien n'est jamais donné de manière évidente, quoi, en fait. Ce que je peux dire aussi, très simplement, c'est que je conçois un petit peu les expositions comme des films, avec des chapitres, avec des personnages, avec différentes séquences, des fondus d'une salle à une autre, et avec un scénario.
Vous avez, pardon, je te coupe, 130 images choisies par Laurent qui défilent d'une manière aléatoire au-dessus de vos têtes, de nos têtes.
Voilà, et on retrouve des thématiques qui sont celles de mon travail, la catastrophe, l'anthropocène, le jeu sur le temps, le voyage dans le temps. Voilà, rapidement.
Sur ce script. Alors, il y a quelqu'un qui nous a manqué dans cette préparation, dans cette conférence, mais il est là en livre, c'est Bruno Latour. Alors, j'ai lu le livre entièrement de Bruno Latour, qui s'appelle « Enquête sur les modes d'existence ». Et je vous rassure, on ne va pas faire une conférence sur Bruno Latour, mais je vous recommande quand même sa lecture. C'est un anthropologue, un philosophe, un sociologue, qui est une superstar internationale, comme certains Français le sont, dans différents domaines. Il est très connu aux États-Unis notamment, et en Angleterre. Il écrit ce livre qui s'appelle « Enquête sur les modes d'existence ». Et je sais, et c'est toi qui as insisté pour qu'on l'invite, mais peut-être qu'on le fera une autre fois, ton travail s'inspire de ces pensées pluridisciplinaires entre la philosophie, tu parles d'anthropocène, peut-être on pourra donner une définition tout à l'heure, de l'homme au centre de son destin et du destin de la planète, entre miracles et catastrophes. Je rappelle quand même, pour problématiser un tout petit peu notre conversation, quand même qu'on a donné un titre à cette conversation, c'est on va basculer comme ça entre le miracle et la catastrophe, dans cette tension à laquelle tu nous invites dans tes œuvres. Alors, justement, pour revenir à cette pensée, à ces penseurs qui t'inspirent, qui ne sont pas que français, mais il y a aussi Michel Foucault, il y a cette envie à partir de ton concept d'aller comme une constellation, chercher une constellation d'idées autour de l'homme, finalement, au centre du monde, mais au centre aussi de la maîtrise à la fois de son destin et de la catastrophe et de l'accident.
Oui, il y a toute une série de questions qui me semblent intéressantes aujourd'hui. C'est vrai que je trouve que aujourd'hui les guerres les plus dangereuses sont les guerres invisibles. C'est un petit peu aussi un des moteurs de l'exposition, c'est parler de ces guerres invisibles, au contraire des guerres qui sont visibles. Et je me suis intéressé à Latour, mais aussi à une personne qui est très proche de Latour, que Grégory Kenneth, je ne sais pas s'il est là, m'a présenté. C'est une personne qui s'appelle Clive Hamilton et qui est un spécialiste du climat et de toutes ces nouvelles théories, de toutes ces nouvelles technologies, en fait, et notamment le geoengineering, qui est une volonté de régler la question du climat par des nouvelles techniques, en fait, quoi. Et donc, c'est évidemment très dangereux. Il y a des personnes comme Bill Gates qui, aujourd'hui, financent des nouvelles techniques pour, finalement, envoyer des produits dans l'atmosphère pour changer la température de la Terre. Enfin, bon, voilà, ce sont plein de choses très inquiétantes. Je vais pas développer ça là, aujourd'hui, mais en tout cas, bon, c'est des choses qu'on peut retrouver dans mon travail, c'est l'étude de phénomènes, d'institutions, d'architecture qui nous entourent et leur rapport avec le pouvoir. Il y a une salle dans l'exposition, par exemple, qui parle du rapport entre le pouvoir et le Vatican, et comment le Vatican organise des moments historiques, comment le Vatican produit une esthétique. Mais j'ai fait ce film il y a quelques années qui s'appelait Silent Movie, où on voyait les architectures de surveillance. dans le sud de l'Espagne, dont tous ces dispositifs qui nous entourent. J'ai aussi travaillé sur ARP, une base aux États-Unis, très étrange. Donc je m'intéresse à ces micro-situations où on a un point de départ documentaire et une situation où on n'a pas toutes les informations pour comprendre ce à quoi on fait face. Voilà.
Le titre « Soleil double » en fait englobe ce qu'on vient de dire sur cette notion de réel double. Tu parlais aussi dans une de tes notions que tu développes dans cette exposition de l'invisible du soleil qui s'appelle la némésis. Est-ce que tu peux élaborer un petit peu là-dessus?
C'est une métaphore. Il y a des théories scientifiques qui parlent d'un double du soleil qui aurait sa propre ombre. Je m'intéresse à ces théories comme à la théorie des cordes qui explique qu'on pourrait avoir plus que 3-4 dimensions, mais 10 dimensions dans l'univers, et que des univers pourraient se contenir les uns les autres, ou bien coexister sans qu'on puisse passer de l'un à l'autre. Bon, toutes ces choses sont des points de départ pour moi, des espèces de scripts pour créer des œuvres, en fait. À la fin, ça reste quand même ce qui m'intéresse le plus, c'est créer des objets qui posent questions et produire... lors de la visite d'un spectateur, un sentiment étrange, parce que, en fait, contrairement à tout ce qui nous entoure, toutes les infos ne nous sont pas données et j'essaie de produire des questionnements plutôt que donner des réponses. Donc, évidemment, je suis très intéressé par toutes ces théories et toutes ces nouvelles manières de voir le monde, en fait.
Merci. Marc-Olivier Valeur, alors en parlant justement des œuvres de Laurent, tu les connais bien, puisque vous avez travaillé, et ça fait de longues années que vous avez engagé un dialogue autour de la matière plastique, j'allais dire, de Laurent. Tu as même préfacé, et je vous recommande la lecture de ce catalogue, le dernier catalogue qui date de 2009, je crois, qui s'appelle le rayonnement du corps noir. Avec une préface de Marc-Olivier. Et donc c'était l'occasion idéale pour engager une conversation autour de l'œuvre ou des œuvres de Laurent avec toi et ta propre, bien sûr, ta propre analyse sur les champs qu'il explore. Marc-Olivier Valère.
Alors c'est vrai qu'avec Laurent, ça fait une dizaine d'années maintenant, même plus, je crois, qu'on discute beaucoup. Alors évidemment, on a travaillé ensemble sur des expositions à New York et à Paris, mais c'est vrai qu'on partage beaucoup de réflexions sur, que ça soit la science-fiction, que ça soit la physique quantique ou la théorie des cordes, ou en fait, on est béotien en la matière, il me semble, mais c'est plutôt l'utilité ou les implications de ces champs de recherche dans ce qui nous intéresse. Et je crois que là, on partage un intérêt de pointer en quelque sorte, en dehors du monde de l'art, des façons de faire, des façons de voir. Si cela fonctionne, si les grilles d'interprétation peuvent être utiles à notre propre recherche, ensuite les transférer dans notre domaine de recherche qui est l'art. Et là-dessus, je crois, ça a donné lieu à des expositions, notamment en Gakona, au Palais de Tokyo, notre passion pour Nikola Tesla, notre passion pour les ondes électromagnétiques, etc. Il y a une autre, je pense, on n'en a pas vraiment parlé hier. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, en voyant l'exposition, parce qu'évidemment, cette petite conversation, comme tu l'as dit, c'est plus une discussion ou des réflexions comme ça qu'une conférence. Donc, je veux juste revenir sur la visite de l'exposition, en quelque sorte. On voit beaucoup de miracles. On voit beaucoup de miracles, que ça soit le soleil double, que ça soit le miracle de Fatima, que ça soit autre chose. Moi, ça me fait penser, qui dit miracle dit en quelque sorte magie. Alors, un autre champ de recherche, donc en dehors du monde de l'art, qui est la magie, m'intéresse beaucoup. Et je vais vous dire pourquoi ça m'intéresse, et qu'est-ce que ça peut apporter dans le monde de l'art. La magie, pour que ça fonctionne, alors évidemment, la première chose, toute vraiment de base, c'est qu'il faut y croire. Je discutais une fois avec Christophe Priest, hein, qui a écrit ce fameux livre Le Prestige, hein, qui a été d'ailleurs adapté au cinéma. Et il me disait, mais c'est tout simple. Si on discute comme ça, si je discute avec toi, et pendant la discussion, je sors un lapin de mon chapeau, bon, tu vas me dire, bon, ben, ok, mais voilà, c'est pas extraordinaire. Par contre, si j'arrive à te convaincre que dans ce chapeau, il n'y a absolument rien, et qu'au bout d'un moment, je sors un lapin, tout le monde va être, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire, il faut y croire. Hein, il faut aussi construire les conditions pour cette croyance. Et dans le livre de Christophe Priest, Le Prestige, il décrit assez bien le scénario standard d'un tour de magie, qui d'ailleurs est le scénario standard de tout type de narration, hein, qu'on le retrouve dans les grands récits historiques, hein, comme dans les films de Batman ou d'autres grands récits. C'est un arc narratif totalement standard. Christophe Priest prend le prétexte de la magie. Alors, tout tour de magie comporte trois étapes. Un, c'est ce qu'il appelle « the pledge », la présentation. Alors, l'exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez du film, on voit un magicien qui met une cage avec un oiseau sur une table. Et donc, voilà, ça, c'est ce qui est visible. On est confronté à la visibilité. La deuxième phase, hein, le deuxième stade, c'est « the turn », la transformation, la disparition. Alors, il met un voile sur la cage, abracadabra, il tape dessus, il enlève le drap, là, il n'y a plus de cage, il n'y a plus d'oiseau, il n'y a plus rien. Tout est disparu. Alors, évidemment, un moment un peu bizarre, parce que ce qu'on croyait visible ne l'est plus. Et par contre, alors, il y a la troisième étape, qui est le grand tour, qui donne la renommée, en général, aux magiciens, qui est le prestige, qui est, en fait, la réapparition d'un objet disparu, par exemple l'oiseau que le magicien va sortir de sa poche. Et qu'est-ce que ça dit sur l'art? À mon avis, toute œuvre d'art fonctionne un peu de la même manière. Si vous regardez une œuvre d'art, un objet, prenons par exemple l'objet standard presque du XXe siècle, que ce soit le ready-made, il fonctionne exactement de la même manière. Il est visible, vous voyez un objet ordinaire, et sous vos yeux, il se transforme instantanément, il devient invisible, c'est-à-dire qu'il disparaît comme objet ordinaire et il réapparaît instantanément comme objet esthétique, comme œuvre d'art. Voilà un exemple qui donne quelques indices, quelques clés de lecture sur ce fameux mystère, hein, de cette transfiguration de l'objet ordinaire. On a aussi en science-fiction, voilà un autre champ qui nous relie, en science-fiction, il se passe exactement la même chose. Hein, au milieu du film, tout d'un coup, celui qu'on prenait pour un être humain se transforme en répliquant ou en extraterrestre. N'importe quel gamin de 8 ans va se dire « Bon, ben, il n'y a pas de problème. Hein, moi, celui que je prenais pour un être humain change de qualité, change de nature, devient quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre. Et l'histoire continue. Il n'y a aucun problème. » Ça pose, par contre, des problèmes dans le champ de l'art. Est-ce que la science-fiction peut nous aider à une fois de plus comprendre ce mystère de la transfiguration? Voilà des questions qui m'intéressent. Si je vous parle de ces trois étapes du prestige, c'est parce que je pense que dans les œuvres de Laurent Grasso, on commence de la même manière. On est en face d'invisibles, d'un visible quelquefois presque photogénique ou hyper visible, hein, que ça soit l'éruption d'un volcan par exemple. Ce visible est évidemment un piège. Hein. Souvent dans les œuvres, on peut même penser à des œuvres beaucoup plus anciennes de Laurent Grasso, l'idée du point fixe est importante. L'idée du point fixe, qui est évidemment quelque chose contre lequel les artistes contemporains se battent, hein, de casser ce point fixe, de casser cette vision fenêtre. Ça fait évidemment très longtemps que les artistes essayent justement de sortir de cette logique, de cette dynamique du point fixe, et l'ont fait avec beaucoup de succès. Et Laurent l'utilise comme piège. On a l'impression que l'on est en face d'une peinture ancienne, avec quasiment la logique de la perspective, avec toutes les logiques qui ont amené, je dirais, toutes les règles de notre façon d'appréhender finalement la peinture, d'appréhender la réalité. Mais tout d'un coup, quelque part, il y a ce turn, cette transformation qui fait que ce qu'on pensait être un point fixe, qui est rassurant, qui est quelque chose sur lequel on peut se baser, hein, s'appuyer, tout d'un coup, il y a une sorte de transition naturelle, que ça soit une éclipse, que ça soit une catastrophe. Là, je crois que la catastrophe est un très bon exemple. Parce qu'une catastrophe, ce n'est pas un avant, un pendant, un après. La catastrophe, c'est un processus perpétuel de transformation. Et là-dedans, il n'y a plus de point fixe. Il n'y a plus que ce processus dynamique d'une marche en avant, ou d'une presque aussi d'une marche en arrière. On ne sait pas dans quel sens ça va, hein, parce que les choses ne seront plus jamais comme avant, mais en même temps, où cela mène, on ne sait pas. Et on est pris comme ça dans cette espèce de mouvement qui ne s'arrête, on ne sait pas où. Donc ça, c'est important parce que cette idée de la catastrophe, grâce à des artistes comme Laurent Grasso, je pense, nous amène à justement ne pas s'arrêter sur ce qu'on pourrait apprécier comme point fixe, mais plutôt sur cette lente transition qui nous amène à quelque chose qui finalement se transfigure en quelque chose d'autre. Parler de la théorie des cordes, moi je me fascine évidemment pour les multivers, hein, on en parlait déjà je crois il y a une dizaine d'années. D'ailleurs, dans le catalogue d'exposition, je crois qu'on avait publié un extrait du physicien Deutsch qui s'intéressait à ces multivers, la façon de dire que de toute façon, dans la physique quantique, les univers sont d'ombre infinie. Maintenant, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de raison que notre monde tel qu'on le connaît ne soit pas dédoublé quelque part. Hein. Et évidemment, quand on voit le titre de l'exposition, quand on voit certaines œuvres, donc Soleil double, on peut d'abord penser à une dualité. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, qui dit dualité dit quand même doublement du point fixe, etc. Mais c'est un piège, à mon avis. On me dira si j'ai tort ou raison, mais je le vois un peu comme un piège parce que double soleil, un soleil double, c'est la possibilité, c'est le commencement d'une multiplication. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que on peut être tenté de voir cela comme simplement une dualité, hein, avec c'est ceci ou bien cela. Et là, on est dans une logique sélective, hein, qui est la logique avec laquelle on a été éduqué quelque part, mais des artistes comme Laurent Grasso et la façon, je pense, spécifique à Laurent Grasso de nous amener à adopter une logique qui exclut totalement le point fixe, hein, qui est une sorte d'hygiène de l'esprit, parce qu'on sait depuis très longtemps, il n'y a pas de point fixe dans l'univers, hein, comme disait Einstein, adopter une logique additionnelle, c'est ceci. Et ce soleil, et encore un autre soleil, et encore un autre univers. Et c'est justement, il y a beaucoup de sciences, notamment les mathématiques, ont adopté depuis très longtemps, hein, cette logique additionnelle. Ce n'est pas juste ou faux, il y a un problème à résoudre, il y a des solutions qui sont plus ou moins utiles. Et je crois que dans cet axe de réflexion, un travail tel que celui de Laurent Grasso est salutaire, parce qu'il nous oblige, finalement, de manière presque un peu perverse, hein, parce qu'il nous piège dans ce qu'on peut penser comme étant un point fixe, mais qui se révèle, justement, se transforme, se transfigure, et nous amène sur un plan dynamique, d'où on est obligé d'adopter une logique additionnelle, ce qui veut dire aussi, qui dit logique additionnelle, qui dit aussi ce que j'appelle le quotient schizophrénique d'une œuvre d'art, c'est-à-dire que comme tu disais, tu laisses les questions ouvertes, ce qui implique qu'une interprétation peut s'ajouter à une autre. Hein. Ce n'est pas cette interprétation au détriment de telle autre, hein. C'est donc pas la logique sélective. C'est cette interprétation, et en plus celle-là, et encore une autre, et encore une autre. Et je dirais que plus l'œuvre accepte l'interprétation, plus elle devient dense, plus elle devient efficace, elle se construit avec ses multicouches d'interprétation. Et je pense que c'est quelque chose qui pour moi est un moteur, je dirais presque quotidien. C'est presque un apprentissage perpétuel. Apprendre à, on a tellement été éduqué à se dire voilà, c'est comme ci ou comme ça, apprendre que les interprétations, les possibilités, les transformations perpétuelles sur les choses que l'on pense connaître, loin d'annihiler, je dirais, les significations ou des croyances, mais bien au contraire, les renforcent et les rendent plus élastiques. Et à mon avis plus excitante quelque part d'un point de vue de la réflexion.
Avant de passer la parole à Jean-Hubert, Martin, peut-être j'aimerais, si tu me le permets, Laurent, que tu rebondisses sur ça. Alors évidemment, les questions sont ouvertes et là ce sont des réponses ouvertes que tu as données. Merci beaucoup Marc-Olivier, avant d'engager une vraie conversation. Ben, c'est peut-être une manière, parce que me semble-t-il, puisqu'on parlait de Foucault tout à l'heure, c'est un travail, comme tu le dis, de piège et de déconstruction avant d'arriver à ce miracle, à cette magie, d'une manière artistique, cinématographique. Il y a un vrai travail de déconstruction de différents repères qui créent dans une œuvre comme ces peintures une confusion, enfin un anachronisme. Et j'aimerais peut-être aussi dans la suite, après la déconstruction, s'appesantir un peu sur la notion du temps que tu remets fondamentalement en question dans tes œuvres qui sont multidimensionnelles dans le temps. Voilà. Donc, par rapport à la magie et la déconstruction, il y a ce paradoxe-là dans chacune de tes œuvres. J'aurais voulu que tu rebondisses là-dessus.
Ce qui est compliqué, c'est d'arriver à jouer. Il y a une idée de départ qui peut être intéressante, et après, on peut essayer de donner la sensation, en fait, parce que la théorie des cordes, c'est vrai, c'est une théorie très intéressante. On n'y connaît quasiment rien, parce qu'il faut vraiment être expert, je trouve, pour commencer à comprendre et pour pouvoir même lire ce qu'on veut bien nous dire dessus. Bon, mais on peut quand même saisir, justement, ce que je trouve intéressant, c'est quand on est assez peu spécialiste, on saisit quand même des idées simples, l'idée que plusieurs univers, tu parlais de multivers, bon voilà, et à un moment donné, il faut arriver à donner la sensation de quelque chose. On parle de magie, c'est vrai, c'est une idée que je trouve très intéressante et dont on manque un petit peu, quoi. C'est ce rapport à nouveau magique aux objets qu'on fabrique, en fait, quoi. Et moi, depuis le départ, je me suis intéressé aussi à d'autres formes de culture, aux mythologies, à tout cet investissement qu'on peut avoir face à une œuvre d'art. C'est pour ça que c'est ce pouvoir qui m'intéresse, par exemple, dans la peinture religieuse, ce pouvoir, parce que ce pouvoir magique, et on retrouve ça un petit peu dans l'exposition, c'est cette idée qu'à un moment donné, on peut utiliser la divination et les prophéties comme instrument politique, en fait, quoi. Mais on utilise la divination et la magie parce qu'il
y a un livre de Nostradamus.
Il y a Nostradamus, il y a un autre livre de prophétie allemand. On les utilise parce que, en fait, elles ont un pouvoir. C'est ça qui est intéressant, c'est que cette magie dont on parle, elle existe au moins un petit peu dans notre esprit. Et effectivement, c'est un sujet très intéressant. Un sujet qu'on peut retrouver aussi, et je crois que peut-être qu'on pourra parler de ça dans les objets que vous avez pu présenter dans différentes expositions. Il y a aussi cette idée d'un pouvoir magique de l'œuvre. Et bon, voilà, ça c'est pour l'idée de magie. Après, oui, effectivement, quand on parle de deux soleils, c'est le début de la multiplication des perspectives, et effectivement ça évoque le fait que il y en a pas que deux, quoi, effectivement, et que c'est le point de départ pour une démultiplication, en fait, des pistes possibles, en fait.
Ce que tu disais, Marc-Olivier, c'est aussi très intéressant, je crois, parmi les multiples choses intéressantes que tu as dites, c'est la non-linéarité. C'est pas ceci et cela dans toute l'éducation et dans tout le savoir et donc dans tout le modernisme. C'est peut-être que ton travail est post-moderne, puisque par rapport au temps, on parlait de cette notion fondamentale qui est l'anachronisme dans tes assemblages de périodes, c'est la non-linéarité du temps, dans la dimension du temps que tu remets en question.
Tu posais la question du temps. C'est vrai que pour moi, le temps a été une question tout de suite dans mon travail. J'ai fait une première vidéo en 2002 qui s'appelait « Missing Time ». Où on voyait une équipe de football qui avait été comme figée dans le temps et un drone qui tournait autour de ces joueurs immobilisés. Après, j'ai organisé une exposition où j'ai invité d'autres artistes et l'idée c'était que l'espace, le temps aujourd'hui pourrait être une matière que les artistes manipulent et que les artistes peuvent modeler quoi en fait. Donc j'avais fait une exposition qui s'appelait Memories of the Future où il y avait une vingtaine d'artistes qui dont aussi les objets n'étaient pas identifiables tout de suite dans leur période. J'aime beaucoup cette idée que voilà, on sait pas de quelle période puisse venir un objet quoi. Donc cette idée des temporalités multiples, des mélanges de temporalités qu'on voit de manière très concrète dans l'exposition, c'est évidemment, je pense, un des sujets intéressants, enfin moi qui m'intéresse chez certains artistes d'aujourd'hui. Quoi.
Et dans un temps, pour passer la parole, si tu veux bien, à Jean Hubert, dans un temps qui le temps occidental qui est remis en question, qui est cassé et réécrit, en remettant finalement de la subjectivité dans ces récits des temps qui ont été écrits et appris. Voilà. Donc, je pense que voilà, pour ouvrir à Jean Hubert et au monde à partir de cette non-linéarité du temps occidental, voilà aussi une dimension que je trouve très intéressante dans ton travail et que tu as souligné tout à l'heure, Marc-Olivier.
Oui, lorsqu'on a fait ce petit tour de l'exposition hier, il y a tout de suite un certain nombre d'images qui me sont venues à l'esprit, d'œuvres d'art anciennes ou autres, et je vais en montrer quelques-unes. On commence par une introduction juste sur la catastrophe. C'est un petit dessin de Pougny qui se trouve au musée d'art moderne au centre Pompidou. Mais les œuvres de Laurent Grasso qui m'ont intrigué depuis longtemps, ce sont ces petits tableaux dont il y a un grand nombre d'ailleurs dans l'exposition, qui sont dans un style qui pastiche des œuvres de la fin du XVe siècle et qui montrent des phénomènes extraordinaires, des catastrophes, des miracles dans certains cas, des tableaux dont je trouve d'ailleurs dont l'exécution s'est améliorée, enfin, parce qu'il n'est peint pas lui-même, évidemment, et il doit faire appel à des peintres, restaurateurs, j'imagine, qui le font, et je trouve que la qualité s'améliore. Les plus récents sont plus justes, me semble-t-il. Et comme j'aime beaucoup la peinture ancienne, évidemment, ça évoque pour moi plein de souvenirs. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi, et là sa démarche est tout à fait exceptionnelle, pourquoi un artiste vient faire aujourd'hui, on est en pleine modernité, postmodernité, on a des catégories temporelles qui nous découplent la pratique artistique en tranches, pourquoi faire des peintures qui pastichent les primitifs du XVe siècle? Et là, il y a un rapport au temps qui est extrêmement intéressant, et on en revient effectivement à Bruno Latour, et à son autre ouvrage extrêmement intéressant qui est « Nous n'avons jamais été modernes et c'est pour une anthropologie symétrique ». Et au fond, ce que je sens dans l'œuvre de Laurent Grasso, c'est cette tentative de nous montrer que nous avons cru à la suite de la philosophie des Lumières que la rationalité allait gagner, allait l'emporter, que nous vivons dans un monde rationnel et que ce monde occidental qui vit sur la croyance totale qu'il y a des vérités scientifiques, c'est vrai qu'il y a des lois scientifiques, mais que ces vérités scientifiques sont exclusives et qu'elles ont balayé tout le reste, est un leurre. Il y a un monde de croyances religieuses, magiques, de toutes sortes, qui nous entoure et pour lequel nous avons une fascination, ça dépend des individus, plus ou moins grande, selon les uns ou les autres, mais ou même les scientifiques font des recherches extraordinaires sur toutes sortes de phénomènes paranormaux. C'est un peu ce que montrait l'exposition de Marc-Olivier Valère Gacano au Palais de Tokyo. On est donc dans un monde qui n'est pas du tout absolument régi par le rationnel, comme nous avons tendance à nous faire croire que c'est le cas, mais à un monde complètement bipolaire et où l'irrationnel tient une très grande place. Et je trouve dans l'exposition d'ailleurs qu'il y a cette photographie où on voit un ecclésiastique dans l'observatoire du Vatican en train de regarder les astres avec une lunette qui dit tout ça par l'image. Et ce que j'aime beaucoup, on va en reparler, mais c'est dans l'œuvre de Laurent Grasso, c'est que justement ce sont des images et des objets qui font l'œuvre et qui parlent. Et bien sûr, on peut disserter après dessus, on a besoin de temps en temps de quelques explications, mais c'est un travail avant tout visuel et non pas des grands textes mis sur les murs. Donc quelques images ici d'une œuvre qui est à la cathédrale de Stockholm, que Laurent connaît certainement, et qui montre un phénomène de ce que les scientifiques appellent une parélie, hein, c'est bien ça. Je parle sous ton contrôle parce que je suis beaucoup moins versé là-dedans que toi. Et c'est un phénomène qui arrive de temps en temps, en particulier dans les pays du Nord, lorsqu'il y a une grande concentration de cristaux de glace dans l'atmosphère. Et on voit apparaître plusieurs soleils. En général, le soleil se dédouble et en fait, on voit trois soleils. Ici, apparemment, il y en a eu encore beaucoup plus. C'était en 1535. Et le peintre a d'ailleurs pris une espèce de point de vue qui serait un point de vue de fisheye, comme ça, en montrant le ciel d'une manière extrêmement étendue. La prochaine diapo vous le montre encore mieux avec la ville de Stockholm en dessous. Ce qui m'intrigue, c'est que chez Laurent, il y a très souvent un soleil double, ce qui ne correspond pas justement à ces phénomènes où je crois qu'on voit apparaître trois soleils. Enfin, il y a le vrai soleil, si je puis dire, et puis un phénomène optique qui fait apparaître deux soleils de part et d'autre.
En fait, on a fait les deux. Cette peinture, en fait, je l'ai utilisé, on a fait plusieurs tableaux de parélie qui étaient de cette nature-là, c'est-à-dire que le vrai phénomène, en fait, normalement, qu'on peut voir, et il suffit de regarder sur Internet, des parélies existent aujourd'hui, il y en a une en Russie qu'on peut voir sur Internet, très belle, où on voit des halos dans le ciel, et c'est un effet optique, en fait, quoi. Et donc celui-ci existe, après ce qui n'existe pas, c'est celui qu'on voit dans une des peintures, dans plusieurs même des peintures, où on voit deux soleils qui en plus sont rougeoyants, un peu comme des couchers de soleil, mais en hauteur. Et donc, voilà. Bon,
ouais. On va y revenir au soleil. Mais juste là, alors ça c'est une sur la droite, une peinture qui vient d'être acquise par le Louvre, qui est attribuée à Jean Cousin, donc milieu du XVIe siècle, école de Fontainebleau, et qui montre le dixième signe cosmique avant-coureur de la fin du monde. Et vous voyez des personnages décrits par la petite inscription en latin en dessous, des personnages qui sont fous et qui quittent des cavernes. Et sur la gauche, encore plus intéressant, un petit tableau qui fait partie du même ensemble et qu'on vient de redécouvrir maintenant, qui est au musée de Rouen, et où on voit des pierres qui se combattent. On n'arrive pas à lire la petite mention en latin, mais qui dit, et c'est un autre signe avant-coureur donc de la fin du monde, où les pierres commencent à se combattre, et bon, ça pourrait vous intéresser. La suivante, alors là on voit quelque chose qui est plus proche de certains tableaux de Laurent, mais on ne sait pas de quoi il s'agit exactement. En fait, il y a un titre du tableau, c'est d'Antoine Caron, c'est de 1572, et on dit que c'est un astronome qui regarde une éclipse. Est-ce que c'est une éclipse vraiment, un soleil rouge? Quand il y a une éclipse, il est plutôt noir. Et là, je voudrais revenir à tes tableaux, parce que tu parles souvent de soleil double, mais en fait, on voit deux soleils en éclipse, puisque ce sont des soleils noirs.
Ouais.
Le soleil noir a une espèce de connotation magique aussi, très inquiétante, non?
Oui. Tout ce... C'est le début du soleil double dont on parlait avant, oui. En fait, Soleil noir, c'est aussi le titre du deuxième film. Il y a deux films donc dans l'exposition, Soleil double, où on voit deux soleils qui apparaissent dans la ville de Rome, dans un quartier qui s'appelle Eur. C'est un film où c'est une catastrophe imaginaire, on va dire. L'idée qu'on se réveille un matin et on est exposé à la lumière, à la chaleur de deux soleils en même temps. Effectivement... les deux soleils qu'on voit dans les peintures sont deux éclipses. Donc en fait, il y a à la fois des éclipses et en plus deux soleils en même temps.
Alors bon, ça c'est juste excusez la qualité des photos qui est exécrable, mais comme on ne peut pas photographier dans les musées avec flash et quelquefois la lumière est déficiente. Donc ça c'est juste un tableau de Crespi qui montre que les peintres ont vraiment fait des espèces de reportages sur des phénomènes astronomiques depuis des lustres. La suivante. Alors ça, c'est un tableau extrêmement bizarre, qui est un espèce d'unicum d'un artiste qui s'appelle Dubus, très peu connu, c'est début du XVIIIe siècle, et on ne sait pas exactement quel en est le sujet. Alors c'est en général désigné comme la destruction de Sodome et Gomorre, j'en suis pas sûr du tout. Est-ce que c'est un espèce de passage aux enfers? Vous voyez que c'est très minéral, qu'il y a une espèce de caverne au premier plan, il y a des personnages assez grands, mais il y a des centaines de petits personnages tout en haut, il y a une espèce de petite crucifixion, et on ne sait pas ce que c'est, mais c'est un tableau extrêmement étrange, et je pensais... enfin. Tout de suite, ça résonnait par rapport à un certain nombre de petits tableaux que vous avez dans l'exposition. Alors, ça, c'est très intéressant parce que c'est un tableau coréen du XVIIIe siècle, alors qui nous montre le double soleil, et en dessous, la grande ours. C'est un tableau du musée Guimet. Ça aussi, c'est fascinant. C'est en fait une copie d'un dispositif, d'un appareil tout à fait fascinant, qui est un sismographe. C'est-à-dire que dès que la Terre se met à trembler, les dragons crachent de l'eau qui se trouve dans le récipient dans les gueules des petites grenouilles ou des crapauds qui se trouvent tout autour. C'est du IIe siècle. Et c'est une copie qui est au Musée d'Histoire Naturelle de Toulouse. Mais qui est aussi quelque chose de tout à fait fascinant par rapport à ces phénomènes de catastrophe. Alors, j'étais ravi de voir la fulgurite qu'on a vu passer tout à l'heure dans la projection et qui se retrouve dans un de ces petits tableaux, enfin, qui est une mini-installation avec un petit néon. Il y a un petit tableau, je crois.
Oui, c'est au deuxième étage, dans la salle 7. Il y a une fulgurite qui est...
Vous pouvez y aller, salle 7. Hein.
C'est une pierre creuse, longue, en fait, qui est provoquée par le passage de la foudre. C'est comme un tube qui a été traversé par la foudre.
Alors, c'est absolument fascinant de savoir qu'on peut avoir une représentation de la foudre en trois dimensions, en pierre, puisque c'est un fossile, et qui date de je ne sais combien de millions d'années. Et du coup, ça me faisait penser à ce fossile-là, qui sont en réalité une représentation de gouttes d'eau. C'est une pluie qui est arrivée à un moment donné, sans doute, sur un sol de vase, et ensuite c'est solidifié et c'est fossilisé. Et l'idée qu'on puisse avoir une représentation de quelque chose d'aussi éphémère, d'aussi fragile qu'une goutte d'eau qui remonte à des millions d'années, quelque chose de fascinant.
Et ça c'est des objets du temporel
qui peut être complètement rétréci.
C'est-à-dire que les artistes, après, essayent, je pense, toute leur vie de créer des objets qui peuvent, d'une manière aussi forte, représenter le temps.
Absolument. Suivant. Alors ça, c'est juste une représentation d'un tsunami en estampe japonaise. Et là, deux tableaux qui représentent ici un peintre qui a été chassé de son chevalet par un ange qui peint un tableau qui représente un saint et ce tableau, trimballé ensuite dans les rues, a permis d'arrêter le tremblement de terre qui est en train d'avoir lieu. Alors, c'est un beau miracle représenté par Cano. Et alors, comme vous avez aussi une allusion à Pompéi, je pensais à ce corps tout à fait extraordinaire. Parce que
Pompéi, c'est la vidéo, tu peux préciser?
Oui, la vidéo Soleil Noir qui est au deuxième étage est donc tournée à Stromboli et à Pompéi. Oui.
Et puis, je crois qu'il y a une photo aussi argent, dans les couleurs argent, qui est de Pompéi ou d'à côté de Pompéi, non? Non, non, ces photos tramées légèrement argentées.
Ah non, ça c'est des éruptions en fait.
C'est une éruption.
Mais qui n'est pas qui est d'un autre volcan. Il y a le Thal en fait. Non.
Non. Et quand on pense à Pompéi, on pense évidemment toujours à toutes ces découvertes sur l'architecture et sur l'art et à ces objets qui nous ont fait découvrir toute la civilisation romaine. Mais il y avait aussi évidemment des humains. Et quand la lave s'est répandue sur Pompéi, eh bien, elle a emporté ses corps, enfin, elle les a pas emportés, elle a justement, le corps a fait en quelque sorte un moule, et à l'intérieur, une certaine quantité de lave avec une densité différente s'est déversée, et on a pu retrouver des corps de cette manière-là, en quelque sorte, enfin,
dans leur position,
au moment de la catastrophe. Et...